Il est juste 4h30 à Paris, 3h30 en temps universel, et vous êtes sur RFI Radio France Internationale.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette première demi-heure africaine, aux tonalités d'Amérique bien sûr. On consacre une large partie du début de ce journal aux réactions à la nouvelle élection de Donald Trump. Qu'est-ce que les dirigeants africains attendent de ce retour à la Maison Blanche? Essentiellement de la paix et de la stabilité, l'Afrique percutée frontalement par les conflits mondiaux. Éclairage à suivre à Maurice, à Madagascar, au Soudan, édition spéciale aussi sur notre antenne tout à l'heure. Journée de vives tensions redoutées au Mozambique. Venancio Mondlane appelle ses partisans à paralyser Maputo. Il revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle, mais les autorités ont déjà menacé de faire donner l'armée. La réponse de Libreville aux suspicions de sa participation à la flotte fantôme russe. Nous ne donnons pas le pavillon gabonais à des navires sous sanction, nous dit le ministre de la Mer. Et puis Maman qui délaisse pour un temps les habits du Gondwanais lambda. Il parle ce soir de l'Afrique et de son histoire. Pas drôle, c'est le titre de son spectacle. Et la première a lieu à Abidjan. Donald Trump de retour dans un peu plus de 2 mois à la Maison Blanche, et RFI qui en explore ce matin autant de facettes que possible, autant de conséquences éventuelles pour le continent africain. On commence donc ce journal sur l'île Maurice, puisqu'une question s'est immédiatement invitée dans le débat une fois connus les résultats de l'élection. Que va-t-il advenir de l'accord trouvé le mois dernier avec la Grande-Bretagne sur l'archipel des Chagos? Parce que Port-Louis doit recouvrer sa souveraineté sur ces îles, mais qu'il y a bien sûr la question de la base américaine de Diego Garcia. Certains craignent donc qu'une nouvelle administration aux États-Unis n'impose un raidissement, voire un gel des négociations dans ce dossier, Abdoulaye Rally.
L'accord du 3 octobre entre Port-Louis et Londres qui reconnaît la souveraineté mauricienne sur les Chagos est une avancée historique dans ce contentieux territorial vieux d'un demi-siècle. Un traité devrait suivre cet accord, mais en retour de Trump à la présidence américaine pourrait remettre cette décision en question en raison de la base militaire américaine sur l'archipel. Réaction de Milan Mitterbahn, ancien ambassadeur de Maurice aux Nations Unies.
On risque d'avoir une pause dans les négociations parce qu'il faut se rappeler que les éléments conservateurs aux États-Unis ont exprimé des réserves, pour ne pas dire des critiques.
Maurice espère que Biden aidera à finaliser un traité avec Londres avant son retour des Républicains en janvier. Cependant, Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre des Affaires étrangères, anticipe des négociations plus compliquées.
Le vrai problème, c'est le risque, en tout cas d'un raidissement, même s'il n'y a pas, je pense, un risque de remise en cause totale de l'accord.
Un accord d'ici janvier semble peu probable. Outre la reconnaissance de sa souveraineté, Maurice réclame des compensations pour 56 ans d'occupation, des redevances pour la base américaine de Diego Garcia et le retour des exilés sur une partie du territoire. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Je mettrai fin à toutes les crises internationales, y compris l'horrible guerre avec la Russie et l'Ukraine. Voilà ce que disait Donald Trump au mois de juillet lorsqu'il acceptait l'investiture de son parti. C'est cet espoir d'une résolution des conflits qui semble aussi guider les réactions venues du continent africain. Place maintenant à celle de Madagascar, où le président Radzoen souhaite ses vœux de paix et de prospérité aux nouveaux locataires de la Maison Blanche. Le vice-président de l'Assemblée nationale rappelle quant à lui que son pays a souffert des conséquences économiques de ces guerres et que la stabilité dans le monde sera aussi profitable à la Grande Île. Augustin Andjamananour est vice-président de l'Assemblée, également député de la capitale.
Quand il y a eu la guerre en Ukraine, ça impacte les pays comme Madagascar. On a assisté à la hausse généralisée de la vie, les coûts des farines, du pétrole, etc. Donc cette victoire, c'est peut-être la fin aujourd'hui des conflits où les États-Unis jouent un rôle prépondérant, que ce soit le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, etc. Nous pensons que la politique du président Donald Trump va certainement promouvoir une paix mondiale. C'est la non-ingérence et la fin des guerres fratricides. Aujourd'hui, tant que les États-Unis se prononcent en faveur d'un pays ou d'un autre en conflit direct, ou indirecte, ça n'a jamais été au bénéfice d'une paix mondiale durable.
Le vice-président de l'Assemblée nationale malgache, joint par Pauline Le Troquier, l'ambassadeur du Soudan à Paris, dit peu ou prou la même chose dans cet espoir de paix et de stabilité. Il se raccroche, lui aussi, à ces annonces du nouveau président américain promettant d'agir pour mettre fin au conflit. Le Soudan, ravagé par plus d'un an et demi de guerre. Le diplomate espère qu'une nouvelle équipe à Washington permettra de relancer les pourparlers de paix, mais aussi les pressions sur les acteurs extérieurs accusés de financer et d'armer les forces du général Emeti. Khaled Farah est au micro RFI de Houda Ibrahim.
Heureusement, d'après M. Trump lui-même, il a dit qu'il est venu pour arrêter les guerres et non pas pour faire les guerres. Et donc, espérons qu'il va le faire. Mais la question qui se pose naturellement, est-ce que le Soudan et le conflit au Soudan vient vraiment parmi les priorités du président américain? Aussi, nous espérons qu'il fasse attention à ce conflit oublié par la communauté internationale afin que ces atrocités et ces exactions s'arrêtent du peuple soudanais. Il faut que la communauté internationale agisse rapidement et dise aux sponsors de milices rebelles d'arrêter de fournir cette milice avec l'armement et les ressources financières et les facilités, et les autres aussi pays dans la sous-région de s'abstenir d'assister cette milice rebelle de la RSF par le cheminement des mercenaires et d'armement pour attiser la situation dans notre pays.
Khaled Farah, l'ambassadeur du Soudan à Paris. Tour d'horizon complet des réactions africaines que vous pouvez lire aussi sur notre site RFI.fr. On y consacre aussi une nouvelle page spéciale sur ce retour fracassant à la Maison-Blanche. Ce sera au tour d'Andréane Mellard et de ses invités. Rendez-vous à 7h en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Pour l'heure, il est 5h et bientôt 37 minutes à Maputo et c'est une journée de très vive tension redoutée qui commence au Mozambique. Venancio Mondlane, l'opposant en exil qui revendique la victoire à l'élection présidentielle, appelle à une grande marche et à une paralysie totale des grandes artères de la capitale. Il dénonce toujours les fraudes autour des scrutins du 9 octobre, dont les résultats toujours provisoires donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir. La répression policière a déjà fait 16 morts, le ministre de la Défense menace d'envoyer l'armée, mais sans attendre jusque-là la détermination de l'opposant et de ses partisans. Correspondance régionale, Gaëlle Alex.
Le jeudi 7 novembre sera le jour de la libération du peuple mozambicain, a prévenu Venancio Mondlane dans une vidéo postée sur Facebook hier soir. Il promet un blocage de toutes les avenues principales de Maputo. Nous resterons jusqu'à ce que nous ayons obtenu la justice électorale, poursuit-il. Le candidat à la présidentielle n'a manifestement pas entendu les avertissements du ministre de la Défense mozambicain, qui a assuré mardi que l'armée pourrait être déployée si l'ordre constitutionnel venait à être menacé. Les appels au calme se multiplient depuis hier. L'ancien président Joachim Chissano s'est exprimé dans une vidéo sur les réseaux sociaux. « L'heure est grave », constate-t-il. « Forcer votre candidat est dangereusement proche d'un coup d'État. Attendons les résultats. » Hier, le bâtonnier de l'ordre des avocats a annoncé avoir obtenu la libération de 2700 manifestants arrêtés depuis la semaine passée. Il demande aux autorités un dialogue sincère afin d'éviter aujourd'hui un bain de sang. Selon NetBlocks, un organisme de veille de la gouvernance sur Internet, l'accès au web et aux réseaux sociaux reste toujours très parcellaire dans tout le pays. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Des éleveurs de bétail de nouveau pris pour cible au Soudan du Sud. Les autorités de l'État d'Équatoria centrale dans le sud-est du pays rapportent qu'au moins 22 personnes sont mortes dans une attaque sur un marché de la ville de Moguiri. Les assaillants auraient réussi à s'emparer d'un très grand nombre d'animaux et les autorités locales demandent instamment que les civils soient désarmés pour enrayer ces flambées de violence. L'instabilité globale qui continue de régner sur le pays, c'était l'objet d'une visite éclair de William Ruto hier, le président kényan qui a rencontré son homologue Salva Kiir ainsi que Riek Machar, tout à la fois principal opposant et vice-président en vertu de l'accord de paix de 2018. Mais un accord enlisé, tellement enlisé d'ailleurs que William Ruto a lancé il y a 6 mois son propre processus parallèle, Tumaini qui espère brasser et rassembler encore plus de monde. Le premier écueil restant de rallier de nouveau Riek Machar lui-même dans ce processus. Florence Mietto.
Un communiqué conjoint annonce sans plus de détails une reprise du processus de médiation de Toumaïni pour, je cite, « résoudre les problèmes en suspens dans un délai de 2 semaines ». Sur les images diffusées sur le compte X de William Ruto, on le voit marcher côte à côte avec le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, un indice qui pointe vers un possible compromis avec ce dernier. Riek Machar avait quitté le processus Toumaïni, craignant que celui-ci ne vienne au final supplanter l'accord de paix de 2018 et fragiliser sa position au sein du gouvernement. De fait, l'initiative de médiation Toumaïni est perçue, selon plusieurs sources diplomatiques, comme une issue possible à l'enlisement actuel du processus de paix sud-soudanais. Mais même si Machar revient au processus de Nairobi, note le chercheur Daniel Akech-Tiong de l'International Crisis Group, la voie vers un nouvel accord inclusif est incertaine. Source de dissensions importantes, selon cet expert, la question est de savoir comment aligner l'accord de paix de 2018 sur l'initiative de Nairobi et de déterminer lequel doit prédominé. Florence Mietto, Djouba, RFI.
La première campagne électorale de l'ère Oli Nguema s'est ouverte hier au Gabon, campagne pour le référendum constitutionnel du 16 novembre prochain. Les Gabonais devront alors dire oui ou non à la nouvelle loi fondamentale. Le Gabon et les autorités de transition qui assurent ne pas participer sciemment à la flotte fantôme des navires russes. RFI vous le révélait en début de semaine. Cette manière dont Moscou parvient à exporter ses matières premières malgré les sanctions occidentales, en les voyant sur des bateaux qui portent des drapeaux étrangers. Libreville assure contrôler scrupuleusement sa flotte, mais estime que des erreurs et des manquements peuvent être commis notamment par le biais d'intermédiaires privés. Le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndingamudouma est aussi ministre des Transports de la Transition, chargé également de la mer et de la marine marchande.
Ces bateaux-là, quand ils vont prendre le pavillon gabonais, ils ne sont pas sous sanction. La plupart de ces bateaux deviennent sous sanction quand ils enfreignent les normes de la communauté internationale. Nous avons la liste OFAC, Office of Foreign Asset Control. Donc, dès que le nom est sur ces listes, on refuse catégoriquement, il n'est pas pavillonné. Maintenant, il faut comprendre ceci. Le bateau, quand il prend le pavillon, il ne nous dit pas qu'il va aller prendre du pétrole en Russie, aux États-Unis ou ailleurs. Malheureusement, ça peut arriver, c'est parfois le cas, que c'est le pétrole russe qui va les transporter. Quand il va commencer à transporter du pétrole, même si on le dépavillonne, il a un délai entre 45 et 90 jours pour automatiquement ôter le pavillon. On n'a pas donné le pavillon à la Russie. Non, le pavillon est chez un sous-traitant Intershipping qui lui est à Dubaï. Il a l'autorisation de pavillonner tout navire, mais sous contrôle. Et chaque fois, il nous envoie cette liste-là et nous faisons des vérifications. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion avec d'autres pavillonneurs pour voir dans quelle mesure on peut peut-être retirer à Intershipping la licence pour l'emmener ailleurs.
Dieudonné Loïc Ndingamudouma, ministre des Transports de la Transition gabonaise, avec notre correspondant Yves-Laurent Goma. C'est une voix, enfin, que les auditeurs de RFI connaissent bien, celle de Maman, chroniqueur acéré du Gondwana, mais qui ce soir parlera de l'Afrique, bien réelle, histoire pas drôle de l'Afrique, voilà pour le titre du spectacle qu'il dévoile ce soir sur scène et qui porte finalement assez mal son titre, puisque l'humoriste ne perd ni sa plume, ni sa verve quand il monte sur scène. Il sera à Abidjan pour la première, et avant cela il s'est confié à Abdoulaziz Diallo.
Maman, plus connu pour son personnage du président fondateur de la République très très démocratique du Gondwana, s'apprête à brûler les planches pour la deuxième fois ici en Côte d'Ivoire. Avec son spectacle « Histoire pas drôle de l'Afrique », Maman transporte son public dans le passé mouvementé du continent.
Je pars depuis la conférence de Berlin. Les grandes puissances de l'époque se sont réunies, pas pour partager l'Afrique, mais pour se donner les modalités de qui est le premier, qui prend où, qui prend quoi, comment circuler sur le fleuve Congo. Et puis, je veux leur apprendre pas mal de choses sur l'histoire de leur pays, pourquoi la Côte d'Ivoire s'appelle la Côte d'Ivoire, par où ont débarqué les premiers explorateurs.
Maman est une figure de proue pour la scène humoristique en Côte d'Ivoire, en particulier à travers sa maison de production Gondwana City, qui a propulsé plusieurs talents locaux. Parmi eux, Willy Dombo, animateur d'un talk show très populaire, reconnaît le rôle essentiel que l'humoriste a joué dans sa carrière.
Aujourd'hui, l'émission que je gère marche parce qu'il y a 80% d'humour. Mon contrat avec une grosse marque de paris sportifs émane donc du Gondwana. Les gens qui sont venus me voir un jour jouer ont été convaincus.
Avec Histoire pas drôle de l'Afrique, Maman promet d'offrir bien plus qu'un simple spectacle, mais une exploration drôle et percutante de l'histoire du continent. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
À Abidjan et sur la radio du Monde, il est 3h44.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin, acte 2, d'ici au prochain journal. Les agents départementaux de Mayotte qui suspendent provisoirement leur mouvement de grève, ce sera à la une du journal de la première. La chronique des matières premières, restez calme. Hier, après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, l'entreprise Starlink qui va pouvoir déployer ses satellites au-dessus du Niger. De tout cela, on parle dans quelques minutes, après d'ailleurs un nouveau crochet par la Côte d'Ivoire. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, c'est avec ça qu'on ouvre le reportage de la rédaction. Visite et balade entre Abidjan et Grand Bassam pour le dernier jour du Festival des Poéticales, festival d'art lyrique qui a vu le jour grâce à la poétesse Stanella Bonny. Marine Janin.
Faire de la poésie un art accessible à tous, c'est l'objectif que s'est donné la poétesse Stanella Bonny en créant le festival Poétical. Entièrement gratuit, il se décline en panels de discussions, récitals de poésie et spectacles de slam entre plusieurs écoles, universités et instituts culturels, car la poésie, défend Stanella Bonny, est indispensable à la vie humaine.
Heureusement qu'elle existe. Elle existe partout dans le monde, elle existe dans toutes les langues. C'est vraiment le langage humain par excellence. C'est ça pour moi la poésie. Nous créons cet espace-là pour que les uns et les autres puissent s'exprimer autour de la poésie et en poésie.
En plus des écrivains ivoiriens, Poétical rassemble cette année 7 poètes de plusieurs continents autour du thème poésie et migration. Les débats, toujours littéraires, sont aussi ancrés dans l'actualité, souligne Aneta Vété Kongolo, professeure d'université et poétesse martiniquaise, invitée à l'un des panels.
Nous sommes ce que nous sommes par migration, par immigration, par émigration. Il nous faut réfléchir à ces questions, proposer un espace de parole à des personnes qui peuvent ne pas en avoir. En poésie, on voit bien des personnes qui se sont déplacées volontairement ou qui ont été déplacées contre leur gré, se donner la peine de rentrer dans cet espace poétique pour le dire à leur manière.
Le déplacement est aussi bien souvent une source d'inspiration. Le poète et psychiatre canadien d'origine haïtienne, Joël Desrosiers, va même jusqu'à qualifier l'expérience de la migration d'expérience poétique.
Beaucoup de poètes s'enrichissent auprès de ces pays, de ces terres étrangères qui ne sont pas les leurs, mais qui deviennent les leurs. Nous vivons dans un monde où le poète a désormais une place, pas seulement pour dénoncer, mais pour annoncer, je crois, pour annoncer à l'homme et à la femme ses compétences à aimer, à considérer la terre comme étant à tous et à toutes. C'est un gros problème, c'est un problème majeur. Les frontières sont nécessaires. Et en même temps, elles sont faites pour être traversées.
Et pour ceux qui auraient manqué, le Festival Poétical, le collectif ivoirien L'École des Poètes organisera son propre festival international de poésie à Abidjan, axé celui-là sur le slam, au début du mois de décembre. Marine Janin, Abidjan, RFI.
3h47 à Abidjan, le dossier Afrique Éco, dans une minute.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Les grandes lignes de l'actualité internationale de ce 7 novembre. D'abord, c'est Donald Trump qui reçoit les félicitations de Joe Biden, qu'il a invité à la Maison-Blanche. Le président sortant démocrate s'adressera à la nation cet après-midi pour évoquer les résultats de l'élection d'hier. Donald Trump s'est déjà entretenu par téléphone avec plusieurs dirigeants, notamment avec le président français Emmanuel Macron, exprimant selon l'Élysée leur volonté d'œuvrer au retour de la paix face aux grandes crises internationales en cours. Entretien aussi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec qui il a discuté de la menace iranienne. L'élection de Donald Trump qui provoque déjà un tourbillon sur les marchés mondiaux. Record du Bitcoin, envolé du dollar, grand 8 sur les indices boursiers européens. Ouverture en fanfare de Wall Street, édition spéciale ce matin sur RFI, entre 8h et 9h, heure de Paris. L'Allemagne, qui est entrée hier soir dans une période de crise politique majeure, à la tête du pays depuis fin 2021, la coalition hétéroclite menée par Olaf Scholz, qui unit sociaux-démocrates, écologistes et libéraux, a volé en éclats. Et cela après le limogeage du ministre des Finances et chef de file des libéraux, Christian Lindner. L'une des entreprises d'Elon Musk continue de tisser sa toile céleste dans le ciel africain. Après le Mali, le Niger autorise à son tour l'entreprise Starlink à opérer sur son territoire. Elle offre une connexion à Internet par le biais d'une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. Les autorités ont longtemps été réticentes à l'idée de cette implantation, mais finalement, un accord a été bouclé en ce sens la semaine dernière. L'objectif est de couvrir la quasi-totalité des 1 300 000 km² du territoire nigérien et d'améliorer considérablement la couverture Internet, Alexis Bédu, dans un pays où la connectivité est encore très faible.
Oui, que ce soit en 2G, 3G ou 4G, la couverture ne dépasse pas le tiers du territoire au Niger. Après des années de refus, les autorités ont donc dit oui à Starlink. Avantage principal de l'offre, du haut débit à un tarif abordable avec 200 mégabits par seconde pour environ 25 000 francs CFA par mois. Un tournant pour les entreprises nigériennes selon l'économiste Ibrahim Amadou Louché.
Ce qui va changer avec Starlink, c'est que le déploiement du haut débit pour le secteur de l'entrepreneuriat de manière globale, donc ça peut être un point très très important. Comme je disais, en termes d'offres aujourd'hui, beaucoup s'en plaignent de la mauvaise qualité. Et là, avec Starlink, sans doute, cette crainte sera levée et puis les entreprises pourront pouvoir développer leur business.
Longtemps, les autorités nigériennes ont craint l'utilisation de ce réseau par les groupes djihadistes, mais le rapport bénéfice-risque semble avoir changé.
Avec un acteur comme Starlink, le problème de la couverture, il est résolu.
Anthony Adopo est spécialiste du numérique en Afrique. Il explique que la stratégie de Starlink sur le continent a également évolué. Le fournisseur d'accès envoie désormais ses équipes négocier pour convaincre un à un les pays africains.
Aujourd'hui, Starlink a pu contacter plusieurs États afin de rassurer sur les différentes craintes et puis sur le respect du cadre réglementaire de ces pays-là. Première étape, on constate des terminaux qui opèrent sur notre territoire sans y avoir été autorisés, donc levée de bouclier pour avertir, pour dire que c'est contraire à la loi. Ensuite, discussion avec les gouvernements, avec les États. Et une fois qu'on s'est compris, acceptation progressive, voilà, de ce nouvel acteur-là.
Alors reste le défi de la souveraineté numérique. Comment seront contrôlées les données collectées et les communications qui transiteront par le réseau? De nombreux pays comme le Cameroun ou la République démocratique du Congo refusent encore d'autoriser Starlink.
Les pays n'interdisent pas Starlink, mais réfléchissent. Ils réfléchissent plutôt à comment est-ce qu'on fait venir cet acteur-là tout en préservant l'écosystème local qui, depuis longtemps, investit pour pouvoir connecter tout le monde. Donc c'est cette équation-là aujourd'hui qui est en réflexion dans la plupart des pays africains.
Après le Liberia récemment, le Niger va donc devenir le 15e pays africain à autoriser Starlink sur son territoire. Au Kenya, ce lundi, l'opérateur américain a suspendu toute nouvelle souscription, invoquant une surcharge de son réseau.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Il est encore un peu question d'Elon Musk dans la chronique des matières premières, puisque l'on évoque l'élection présidentielle américaine et les conséquences qu'elle a eues sur les places d'échange mondiales qu'elle a eues. Ou plutôt qu'elle n'a pas eu, Marie-Pierre Olfan, puisque la nouvelle élection de Donald Trump n'a pas encore fait bouger les lignes comme certains pouvaient s'y attendre.
Comme il l'a promis à plusieurs reprises, Donald Trump devrait ouvrir les vannes de la production pétrolière et gazière et renforcer la position du pays en tant qu'exportateur. Mais ira-t-il jusqu'à inonder le marché pour chercher à mettre fin à la guerre en Ukraine ? Comme cela a été évoqué, difficile à imaginer car faire couler le pétrole à flot ferait certes baisser les prix et pénaliserait Vladimir Poutine, mais les producteurs américains seraient tout aussi impactés. En revanche, il est fort probable que l'appétence de Donald Trump pour les énergies fossiles pèse sur la transition environnementale. La consommation américaine de pétrole pourrait alors baisser moins vite que prévu, voire augmenter, ce qui compensera alors peut-être la hausse de production. L'effet sur les prix du pétrole pourrait au final être quasi neutre. Mais ce n'est là qu'une hypothèse, car ce scénario pourrait aussi être bousculé par Elon Musk, le patron de Tesla, qui a été un des plus fervents défenseurs de Donald Trump durant cette campagne. Après avoir été soutenu par le milliardaire, le futur président pourra difficilement ne pas appuyer le développement d'unités industrielles de fabrication de batteries. Si la dynamique se poursuit, elle tirera alors la demande américaine pour les énergies fossiles vers le bas. Pour l'heure, ce qui retient l'attention des partenaires commerciaux des États-Unis, c'est essentiellement l'évolution du dollar. La monnaie américaine est devenue la devise des matières premières. Historiquement, lorsque le dollar monte, mécaniquement, le prix des matières premières a tendance à baisser. L'autre point d'attention, c'est bien sûr la perspective de nouvelles taxes douanières. À en croire l'augmentation des achats chinois de céréales et de soja américains qui ont précédé le scrutin, la Chine s'y prépare, tout en sachant que si elle ne peut plus acheter aux États-Unis, elle pourra se fournir au Brésil, le nouveau grenier du monde.
Marie-Pierre Olfan. Dans 6 minutes, le retour de l'actualité internationale avec Léa Boutin-Rivière. Avant cela, notre rendez-vous dans les territoires français de l'océan Indien. Rendez-vous des confrères de La Première avec la grève suspendue au conseil départemental de Mayotte. En tout cas, pour les 5 prochains jours. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Les grévistes ont obtenu en effet satisfaction sur une partie de leurs revendications, notamment en ce qui concerne le STM, service de transport maritime, comprenez la barge qui relie la petite et la grande terre. Écoutez la porte-parole de l'intersyndicale, Anifa Rafiou. Elle est au micro d'Anastasia Laguerra.
On a apprécié au niveau de l'engagement du président du conseil départemental de vouloir se déplacer à la STM pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour étudier toutes les problématiques que rencontre la STM depuis plusieurs années. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, le mouvement il est suspendu, mais il n'est pas arrêté parce qu'il reste encore en plus des points qui ont été discutés.
Justement, lesquels ? Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui ?
Il y a des dossiers spécifiques sur lesquels nous ne sommes pas encore rentrés, tels que la situation de la brigade nature, plus précisément la brigade tortue, qu'on appelle la brigade tortue. Il y a la situation des médiateurs qui sont dans les bus scolaires, qui est problématique, qui n'a pas encore été abordée, ainsi que la situation des contrôleurs de bus.
Construire des logements sur une terre où n'ont jamais poussé que des cailloux, plutôt que sur de bonnes terres agricoles, cela paraissait a priori une bonne idée, mais tel n'est pas l'avis d'un collectif d'habitants de la commune de Saint-Paul, dans l'ouest de la Réunion. Eux veulent protéger la savane, c'est d'ailleurs le nom de leur collectif, et le dialogue entre le collectif en question et la mairie tourne pour l'instant au dialogue de sourds, au grand regret du maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Il est au micro de Harry Amourani.
On est sur une zone urbanisée qui est prévue à l'urbanisation à cet effet. Elle est sur 90 hectares et elle n'est pas du tout sur la savane du Cap Laoussé. Donc, si on ne construit pas sur les zones constructibles, je ne vois pas où on peut construire. Et j'ai présenté aussi au collectif l'ensemble des zones d'aménagement de la ville de Saint-Paul. Et on sait qu'on est en territoire tendu. Ça veut dire que les loyers aujourd'hui sont très élevés et on ne trouve pas de logement. Et ça aussi, il faut entendre cette question-là.
Retour à Mayotte pour terminer avec ce distributeur installé cette année dans les locaux d'un collège de la commune de Ouangani. Un distributeur d'un genre un peu particulier puisqu'on n'y trouve ni bar chocolaté, ni chips, ni soda, mais des histoires courtes à lire et à déguster gratuitement. Explication de Laini Zuber Rawal.
Une innovation littéraire qui séduit les jeunes du collège de Ouangani, le Cub Edito. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un distributeur de petites histoires à portée des élèves, imprimées sur un papyrus sur simple pression d'un bouton. Ce dispositif original a été installé au collège de Ouangani en mai 2024, à l'initiative de Madame Gwenaëlle Renier, enseignante du collège, et de l'ancienne professeure documentaliste Madame Chevran. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Eh bien tout simplement pour répondre à la déficience de la lecture à Mayotte. Le Cub Edito met à disposition des élèves et des enseignants plus de 12 000 œuvres couvrant tous les genres littéraires, tels que la bande dessinée, les nouvelles ou encore la poésie. Ce distributeur de petites histoires encourage les élèves à lire et même à écrire. Les élèves du collège de Ouangani peuvent eux aussi publier leurs histoires dans le Cub Edito, sous validation par le corps enseignant. Leurs histoires peuvent ensuite être imprimées et lues par les autres élèves. Grâce à l'engagement de l'équipe enseignante de Ouangani, le Cub Edito s'est rapidement imposé dans le quotidien des élèves. Et qui sait, il pourrait même faire naître des futurs auteurs.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Benoît Ferrand. Merci à Thierry Le Saint qui réalisait cette première demi-heure africaine. Sébastien Duhamel vous accompagne de nouveau dans 30 minutes pour un nouveau point complet sur l'actualité du continent. Dans un peu plus d'une minute, ce sera l'actualité internationale avec Léa Boutin-Rivière. Je vous redonne aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire. On vous lit et on vous répond. C'est en un seul mot, africematin@rfi.fr. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Dimal. Luigi.
Hey,
t'es mis tes billes. Tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille. Ton petit ami avec quand
RFI Musique.
On sera toujours heureux tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
Bonjour, c'est Juan Gomez. 8 ans après sa première élection, Donald Trump a de nouveau créé la surprise en devenant le 47e président des États-Unis. Comment expliquez-vous cette victoire sans appel face à Kamala Harris? Que vous inspire le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Disparu le 3 novembre dernier à l'âge de 91 ans, Quincy Jones sera à tout jamais associé à son travail d'orfèvre aux côtés de Michael Jackson. Mais que retiendra-t-on de ses autres faits d'armes? Connaissons-nous vraiment son travail d'arrangeur, de compositeur et de chef d'orchestre? Réponse et hommage à cette personnalité unique qui s'est hissée au firmament des personnalités universelles.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.